Bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel et c'est l'heure de votre journal en français facile.
Jérôme Bastion.
La France va retrouver dès mardi une activité sociale quasiment normale avec la réouverture des écoles et des lycées, des cafés et restaurants, des musées et monuments, des piscines et des salles de sport et la levée de la limite de 100 km pour les déplacements personnels. La reprise en main de l'enclave anciennement britannique de Hong Kong par Pékin, avalisée comme attendu par le Parlement chinois et ce malgré l'annonce de sanctions américaines. L'Inde à son tour frappée par un fléau qui sévit habituellement plutôt en Afrique, une invasion de criquets pèlerins ravage actuellement l'ouest du pays et les autorités comme les agriculteurs sont démunis face à ce danger.
Le journal
en français facile.
En français facile.
La France bientôt en phase 2 de déconfinement grâce au ralentissement de l'épidémie de Covid-19. À partir de mardi prochain, 2 juin, nombre de mesures de restriction seront ainsi levées, a annoncé ce jeudi le Premier ministre Édouard Philippe à l'issue d'un conseil de défense. La pression hospitalière se relâchant, le classement par couleur des départements français a vu disparaître les zones rouges dans l'Hexagone. Seules l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane demeurant des zones critiques qualifiées d'orange. La liberté va devenir la règle et l'interdiction l'exception, a résumé le chef du gouvernement. Le détail de ces mesures avec Pierre-Olivier.
La France est désormais majoritairement en vert, à l'exception de l'Île-de-France, de Mayotte et de la Guyane en orange. Et de ce nouveau code couleur découle une deuxième phase du déconfinement, un peu différente selon que l'on soit en vert ou en orange. Prenons par exemple l'une des annonces qu'attendaient le plus les Français, celle de la réouverture des bars et des restaurants. Dans les zones vertes, dès le 2 juin prochain, tous les établissements pourront rouvrir et accueillir à nouveau des clients. Mais attention, les tables des restaurants devront être espacées d'un mètre et ne pas dépasser 10 personnes par tablée. En zone orange, dont Paris, c'est un peu différent. Seules les terrasses seront ouvertes et là encore, les tables devront être espacées. Autre différence, dans les zones vertes, les théâtres, les salles de spectacle, les piscines et les gymnases pourront rouvrir dès mardi prochain, mais il faudra attendre le 22 juin dans les zones orange. Partout en France à présent, les parcs, les plages et les jardins publics rouvriront dès ce week-end, peu importe que l'on soit dans une zone verte ou orange. Idem pour les écoles, collèges et lycées qui devraient tous rouvrir progressivement à partir du 2 juin. Enfin, concernant les déplacements, la limite des 100 km sera levée, mais les frontières intra-européennes, elles, resteront fermées jusqu'au 15 juin.
Pierre-Olivier, prochaine étape de déconfinement avant les vacances d'été, le 22 juin. Ces annonces vont faire du bien à de nombreux secteurs économiques qui sont quasiment à l'arrêt. La machine économique française est en mauvais état au vu des derniers chiffres du chômage. Il a littéralement explosé en avril, plus 22%, soit 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Cette envolée est due en particulier au confinement intégral du pays le mois dernier notamment. Et puis le constructeur automobile français compte supprimer environ 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France, dans le plan d'un cadre d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. La même chose en Espagne, le constructeur automobile Nissan s'apprête à fermer son usine de Barcelone et la compagnie britannique EasyJet envisage de supprimer jusqu'à un tiers de ses effectifs, soit 4 500 postes. Sans surprise, le Parlement chinois a approuvé à une écrasante majorité ce jeudi le projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Un vote intervenu en clôture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire qui a relancé la contestation dans la petite enclave ex-britannique de Hong Kong. Les précisions de Stéphane Lagarde.
2878 voix pour, une contre, 6 abstentions et des délégués debout quasi comme un seul homme dans le Grand Palais du Peuple pour applaudir le vote de ce texte considéré comme un enjeu national majeur par les médias d'État chinois, mais critiqué à Washington comme à Bruxelles. Pour les militants pro-démocratie à Hong Kong, la loi marque en effet le début de la fin de l'autonomie de la région administrative spéciale, offrant au régime communiste un bras armé dans l'ancienne colonie britannique face à celles et ceux que le pouvoir chinois qualifie de sécessionnistes et de terroristes. Suite au vote d'aujourd'hui, le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire peut se lancer dans la rédaction de la loi qui sera incorporée dans la mini-constitution de Hong Kong. Selon certains observateurs, le comité se réunissant tous les 2 mois, le texte pourrait entrer en application dès août prochain. Une procédure express sans passer par le conseil législatif local qui depuis des mois se heurte dans la rue comme dans les urnes à l'opinion hongkongaise hostile à tout renforcement du pouvoir de Pékin. Stéphane Lagarde, Busan et RFI.
Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Australie ont accusé jeudi Pékin d'enfreindre ses obligations internationales. Une annonce doit d'ailleurs être faite ce vendredi par Donald Trump sur la Chine. C'est un fléau qui frappe déjà l'est de l'Afrique et qui est en train de toucher maintenant l'Asie. L'ouest de l'Inde subit ainsi depuis plusieurs jours la pire invasion de criquets pèlerins depuis près de 30 ans. Des millions d'insectes ont ravagé les champs du Rajasthan et de plusieurs autres régions voisines et poursuivent leur route à travers le pays. Autorités comme agriculteurs n'arrivent pas à les empêcher de dévorer les plantations. Les champs biologiques, toutefois, pourraient être moins touchés que les autres. Sébastien Farcy.
Randeep Kang a déjà subi des attaques de criquets dans le passé, mais il y a une semaine, cet agriculteur du Rajasthan a vu un essaim d'une taille inédite s'abattre sur ses orangers.
Il y en avait des milliards. L'essaim s'étendait à plus de 5 km de long et 2 km de large. Une plante de 60 cm a parfois des milliers de criquets dessus et ils peuvent manger toutes les feuilles en une minute pour ne laisser que le tronc. Pour les effrayer, nous jouons une musique forte et nous brûlons des pneumatiques.
On estime que 50 000 hectares de champs ont déjà été dévorés en Inde par ces criquets pèlerins en deux vagues successives. Les plants de coton ont été les plus touchés. Les orangers de Randeep Kang, eux, ont été étonnamment épargnés par ces criquets. La raison, dit-il, est que son champ est biologique.
Au bout de 3 ou 4 ans d'agriculture biologique, les plantes produisent leurs propres toxines qui servent à repousser les insectes. Donc cela les protège contre les criquets.
Il y a encore peu d'études qui démontrent que les champs biologiques sont immunisés contre ces criquets. Mais cet agriculteur assure avoir une preuve. Le champ d'un voisin qui fait pousser les mêmes orangers mais avec des pesticides a quant à lui été dévoré par ces insectes. Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Et puis cette information de dernière minute, la Cour pénale internationale lève les conditions de restriction imposées au président ivoirien Laurent Gbagbo, qui peut quitter la Belgique notamment. Il y était assigné à résidence depuis janvier 2019. Pierre Firsian.
Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé ont désormais le droit de se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident. Ils n'ont plus l'obligation de remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, et notamment leur passeport, ni de se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'État d'accueil ou auprès du greffe, ni enfin de se conformer à toute autre condition imposée par l'État dans lequel ils seront libérés. Concrètement, cela veut donc dire que les deux hommes sont beaucoup plus libres de leur mouvement qu'ils ne l'étaient auparavant. En clair, les deux hommes peuvent donc aller vivre dans un des 134 États parties au statut de Rome, et donc en Côte d'Ivoire, à condition toutefois que les autorités du pays acceptent de les accueillir. Les avocats de l'ancien président ivoirien saluent ce soir cette décision, qu'ils qualifient d'excellente pour la défense et pour Laurent Gbagbo.
Pierre Firsian. Et puis en France, le comédien et humoriste Guy Bedos est mort ce jeudi soir. Son fils l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il était connu pour ses sketchs féroces, son engagement à gauche aussi et ses rôles dans des films comme Un éléphant, ça trompe énormément. Retour sur sa carrière avec Sophie Torlotin.
Il aimait faire rire mais aussi exaspérer ses bêtes noires politiques. Guy Bedos avait l'humour mais aussi l'engagement à gauche, anticolonialiste et antifasciste, cheville au corps. Le gamin pied noir, né en Algérie en 1934, expliquait souvent avoir forgé son esprit pamphlétaire, anard et révolté au sein d'une famille maltraitante, entre un beau-père raciste et antisémite et une mère pétainiste. Il s'en émancipe en choisissant le théâtre, rate le concours d'entrée au conservatoire, mais se lie avec Jean-Paul Belmondo et croise Jacques Prévert, qui l'encourage à écrire ses propres textes. Il perce justement à Bobino à 30 ans, se produit avec sa compagne Sophie Domier et impose son ton mordant, pastichant les Français racistes. Dans les années 70, Yves Robert le fait tourner dans Un éléphant, ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis, des films très populaires. Guy Bedos devient l'un des artistes engagés les plus féroces de France, brocardant les personnalités de droite, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, et encore plus d'extrême droite, les Le Pen, père et fille. Mais le comédien et éditorialiste qui cachait son angoisse derrière des yeux espiègles n'épargnait pas sa famille politique, brocardant avec férocité la gauche caviar et revendiquant sa liberté avant tout.
Sophie Torlotin, il était beau, il était drôle, il était libre et courageux, a écrit son fils, le cinéaste Nicolas Bedos. Au revoir à Guy Bedos. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.